Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, lors de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11h à 12h, et mercredi de 10h, lors de Kinshasa.
Certaines personnes vivant sous un même toit peuvent utiliser en commun des objets tranchants et voilà. Et pourtant, cette pratique est de plus en plus déconseillée. Les experts affirment qu'elle peut être une source de propagation de certaines maladies transmissibles. Alors, quels sont les risques liés à l'utilisation en commun des objets tranchants? Docteur Didier Caziguet, coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le sida pour la ville-province de Kinshasa, est notre invité. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, j'ai des personnes.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par objets tranchants?
Les objets tranchants sont tous ces objets qui, dans le cas du sida, qui peuvent à créer des lésions au niveau de la peau et permettre le passage de certains microbes pour lesquels on concerne le VIH. Et à côté des objets tranchants, il y a aussi des objets piquants, comme des aiguilles, tout ce qu'on utilise comme pour percer les oreilles, ainsi de suite. Ce sont des objets qui peuvent permettre à la muqueuse au niveau de la peau de créer des ouvertures pour le passage des microbes dans le VIH qu'on concerne.
Alors prenons par exemple, c'est les cas, quand on parle des objets tranchants, on voit le rasoir.
Oui, comme dans une maison, un grand frère qui a sa lampe de rasoir et un petit frère qui commence à avoir de la barbe. Quand le grand frère est sorti, il peut prendre cette lampe pour se raser et là, il y a un risque.
Voilà, donc, il y a aussi, on voit dans les salons de coiffure, les gens utilisent les mêmes les tondeuses, les coiffes à l'aide des tondeuses, c'est également dangereux.
Dans le cas de la lutte contre le sida, nous disons que l'idéal, c'est que toute personne puisse avoir sa tondeuse. Mais dans le contexte qui est le nôtre des pays à faible ressources, vous comprenez que c'est une condition difficile à réaliser avec les revenus de notre population.
Oui.
Alors nous exigeons que ces tondeuses soient bien désinfectées, comme le VIH, un microbe qui est fragile à l'alcool, soit bien désinfecté et bien frotté pour réduire sensiblement le risque de contamination. Mais l'idéal, c'est que chacun ait sa tondeuse.
Sa tondeuse. Donc, si tout le monde n'a pas cette possibilité, donc on utilise l'alcool pour frotter autour de la lame et puis on utilise pour quelqu'un d'autre.
Oui, et ça, nous disons, on réduit le risque. Mais le risque de zéro, c'est que chacun ait sa tondeuse.
Voilà, et d'autres objets tranchants, on parle aussi des limes que les dames utilisent pour les ongles. Par exemple, souvent on voit des petits passer dans les rues de Kinshasa, Manzaka, tout ça, et vernis, bon, ils viennent pour arranger et soigner les ongles des femmes. Il y a également des dangers par rapport à ça.
Oui, ça c'est une nouvelle pratique qu'on voit de plus en plus à Kinshasa et je salue vraiment ce que vous puissiez dénoncer ce fait parce qu'il y a effectivement un risque de contamination par cette pratique où les dames se font des dessins de manucure par les jeunes gens qui passent de porte en porte et on vient d'une maison où une personne est contaminée parce qu'on ne peut pas savoir si la personne n'a pas encore les manifestations de l'infection VIH qui est le sida. On vient de l'abîmer puis après on passe dans une porte juste après. Il suffit juste de petites sécrétions qui soient restées sur cette ligne, et lorsqu'on va frotter ces une autre personne, le risque de contamination est présent. Et donc, nous demandons à nos dames que chacun puisse avoir sa petite trousse de lignes. Ça ne coûte pas grand-chose, ces lignes.
Voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Quels sont les autres objets tranchants, à part ceux que je viens de citer?
Nous avions vu à l'époque dans notre pays que les femmes, pour des raisons de beauté, se faisaient des tatouages au visage, à gauche, à droite.
Même jusqu'aujourd'hui, les tatouages, c'est à la mode aujourd'hui.
C'est comme je l'ai dit, nous l'avions vu il y a très longtemps. Et nous sommes surpris que cette pratique revienne en force et pour des raisons esthétiques de beauté. Pas seulement les dames, les hommes. Vous voyez les musiciens, vous voyez les footballeurs, vous voyez tous les stars. Donc ça entre dans l'esthétique. C'est la pratique actuelle et nous disons faites attention. Avec quoi on vous tatoue? Est-ce que le tatoueur désinfecte son matériel? Donc tout ce qui peut créer des lésions au niveau de la peau, il y a un risque de contamination. Il n'y a pas que les tatouages dans cette nouvelle pratique.
Oui.
Nous voyons les piercings. Ah, on voit des perces au niveau des oreilles, au niveau des langues, au niveau des nez. Mais on les fait dans quelles conditions? Avec quel matériel utilisé? Nous n'entrons pas dans la dimension esthétique. Nous maintenons des listes contre les sida, nous disons. Est-ce que le matériel utilisé pour le piercing, pour le tatouage, est désinfecté? Est-ce qu'il y a un risque de contamination? Si ce n'est pas désinfecté, sachez que ces pratiques vous exposent à la contamination.
Donc voilà, donc il y a des nouvelles pratiques, piercing et tatouage. On voit des gens qui ont sur leurs bras ou derrière au dos des insignes. Tout ça, c'est la beauté, c'est la mode, quoi. Donc,
c'est la beauté, c'est la mode, c'est bien des fois de voir ça même à des endroits où on ne pourrait pas l'imaginer, mais ici je ne suis pas expert en tatouage.
Mais c'est dangereux.
Mais tout ce qui est utilisé comme matériel, qui va créer des lésions au niveau de la peau, ça crée une ouverture pour faire passer les microbes. Donc c'est dangereux si on
a. Quand vous parlez des lésions, donc c'est des blessures.
Ce sont en fait des frottements. Si on utilise un matériel, par exemple le piercing, là on va percer clairement la peau et si on l'a fait d'une personne infectée à une autre, on peut amener le virus. Et pour le tatouage, si le tatouage a utilisé une méthode où on va faire et utiliser le frottement au niveau de la peau pour créer des cicatrices qui vont être colorées ainsi de suite,
oui.
Et d'une personne à l'autre, si ce matériel est utilisé sans être désinfecté, il y a un risque de contamination.
Un auditeur depuis Mandaka nous appelle pour poser certainement une question. Christian Bokessé, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs.
Oui, Christian.
Oui, j'ai au moins deux préoccupations. La première est la suivante. Je voudrais que l'invité puisse me dire, supposons quelqu'un qui est atteint par le sida, et il a utilisé par exemple une lame de rasoir, et à un certain moment il s'est blessé avec cette lame-là. Et cette lame a fait au moins 3 jours sans utiliser, et que la personne qui n'est pas atteinte vient prendre cette lame pour l'utiliser. Je voudrais savoir maintenant, est-ce que celle qui n'est pas atteinte peut être atteinte tout en utilisant cette lame qui a fait déjà 3 jours sans utiliser, qui est utilisée, malgré la personne qui s'était blessée, est atteinte par ce fléau.
Oui.
La deuxième préoccupation, puisque nous parlons des objets tranchants, j'imagine quelqu'un qui des fois me prend la tête. Est-ce que quelqu'un qui a des fois qui est atteint par le sida, si par exemple il a du plein qui s'est fait découvrir par exemple dans la vie qu'il avait porté, par exemple moi je ne savais pas j'ai porté les mêmes habits, est-ce que ça constitue aussi un danger ou je ne sais pas m'inquiéter par rapport à cela?
Merci Christian. Docteur Dubier.
Oui, Christian a posé des questions capitales. Nous savons tous que le virus du sida, c'est un virus fragile. Il est fragile dans des conditions de sécheresse extrême. Il est fragile dans des conditions de haute température. Il est fragile à l'alcool. Mais dans certaines situations, comme le cas où la personne a utilisé une lame qui a été utilisée précédemment par une personne infectée, et après un temps de 3 jours, il y a plusieurs conditions qu'on doit réunir. Est-ce que le virus a été resté dans un liquide, dans une cellule? Tous ces paramètres, comme on ne sait pas établir l'évidence que le virus a été protégé dans des conditions d'humidité, est-ce qu'il a séché, ainsi de suite, nous disons éviter par mesure de prudence. Parce que vous ne savez pas établir avec évidence que le virus a été désagrégé pendant ces 3 jours. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Tout ce qui est objet tranchant doit être individuel. Pour les habits, comprenez que là, c'est un autre cas. Nous ne sommes pas dans un objet tranchant.
Oui.
Donc, au contact de la peau, si on dépose le virus du VIH sur votre peau, le virus ne va pas traverser votre peau. La peau a une couche, il y a plusieurs couches, et la couche supérieure de la peau est assez étanche, assez rigide pour ne pas permettre le passage du VIH. Donc, le virus se demande deux conditions. La première condition, c'est l'ouverture. Donc, il y a une porte de sortie, il vient d'une façon contaminée, et puis on l'amène là où il y a une porte d'entrée. Si on le dépose sur une surface où il y a une plaie, là, il y a une porte d'entrée. Mais s'il est déposé sur la peau, il n'y a pas de problème. Donc, et là, nous pouvons profiter pour dire que les gestes de la vie courante, comme échanger les habits, échanger les assiettes, ainsi de suite, ne transmettent pas le VIH, mais peuvent transmettre d'autres maladies. Si vous échangez les habits, vous allez avoir des mycoses, mais pas le VIH.
Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Okapi réunit des spécialistes compétents dans Okapi Service. Toute une équipe de nouveaux invités fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, conseil au monde rural, droits des citoyens, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Okapi Service, de lundi à vendredi, dès 9h dans le Kinshasa. Au cas du permis, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Nous parlons aujourd'hui de l'utilisation en commun des objets tranchants. Quels sont les dangers, Dr Didier Caméré, Kazigué, coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le sida pour la ville province de Kinshasa, et notre invité. Et au fil, Moutinguia nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour à vous, Radio Captive.
Quelle est votre question?
Ma question est celle de savoir si les baisers profonds peuvent aussi transmettre le sida, ou des personnes qui ont utilisé une même brosse à dents, est-ce qu'ils ont cette chance de transmettre le sida entre eux?
Voilà, les baisers profonds et l'utilisation en commun d'une brosse à dents, docteur Didier.
Oui, ici nous disons que la contamination du virus ne doit pas vous obnubiler et oublier qu'il y a d'autres maladies qui peuvent être aussi transmises. Donc, en utilisant la même brosse à dents pour deux personnes, sachez que vous pouvez avoir d'autres microbes à part le VIH. Mais ici, pour le cas du VIH, lors du brossage des dents, il y a des petits saignements. Et lorsque vous prenez la brosse de cette personne que vous amenez dans votre bouche, s'il y a une porte d'entrée, comme je l'ai dit tantôt, le virus peut passer. Donc, le risque de contamination dans ce genre de pratique est possible.
Donc, une brosse à dents est à classer parmi les objets piquants?
Non, pas parmi les objets piquants, parce que le brossage, lorsqu'il est fait avec un peu de violence, vous constatez qu'il y a des petits saignements qui s'en suivent par moment. Mm-hmm. Et si nous avons réuni cette condition où le sang, parce que le sang a le virus, et qu'il y a ici des gouttelettes de sang qui sont restées sur la brosse, une deuxième personne prend cette même brosse, mm-hmm, et que reprend par la même pratique un style de brossage qui est celui des lésions aussi des gencives, il peut y avoir le passage des microbes dans ces conditions-là. Par contre, je voulais préciser, le baiser, il a bien dit baiser profond.
Ah, j'ai dit même tantôt, si ce n'est ni parmi les objets tranchants, ni plus.
Voilà, le baiser profond, là, il faut préciser. Ouais. Hein, le baiser ne transmet pas l'infection VIH. Simple, en cas des œufs de la vie courante. Mm. Tous les œufs de la vie courante ne transmettent pas le virus du sida. Mais quand on dit baiser profond, vous comprenez, dans la sexualité, il y a tellement de fantaisies, il y a tellement d'innovations, je n'ai pas tous les contours de ce qu'il appelle profond. Est-ce que par les gestes profonds, il y a sortie du sang? Parce que dans le sang que vous avez, le virus, dans la salive, la quantité du virus n'est pas assez contaminante. Et après, il faut qu'il y ait la deuxième condition, la deuxième personne puisse avoir une porte d'entrée, qui est une plaie ou une lésion au niveau des gencives ou de la muqueuse buccale pour permettre le passage du virus. Donc, le risque n'est pas aussi grand, mais le risque est présent. Mais le mot profond, c'est à prendre avec réserve.
Voilà. Modeste Moulungu est en ligne depuis Kalemie au Katanga. Bonjour. Modeste, bonjour. Modeste n'est plus en ligne. Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'utilisation en commun des objets tranchants et piquants qui peuvent représenter un danger pour la transmission du virus du sida. Est-ce que vous en connaissez d'autres? D'autres objets tranchants, piquants?
Oui, dans le milieu hospitalier, comme vous le savez, les seringues et tout le reste. Évidemment, là, c'est plus facile quand on donne des instructions au corps médical. C'est facile à respecter.
Mais vous savez, dans certains milieux, dans ces pays, il n'y a pas de seringues. Non. Ils peuvent utiliser ces seringues-là pour deux, trois, plusieurs personnes, non?
Ah, non. Là, je ne pense pas que ça soit encore faisable dans notre pays. C'est une norme qui est assez respectée. Par contre, notre combat actuel, c'est de sécuriser la
santé. Dans les milieux, il y a certains milieux dans ce pays où les minimums manquent.
Mais vous allez faire les injections comment? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des seringues quelque part que vous allez acheter, mais peut-être que le coût de la population pose a des difficultés pour accéder à ces seringues. Alors là, on se pose la question, combien coûte une seringue? Je pense que c'est assez difficile avec nos personnels de santé, avec l'éducation que nous donnons, toute l'information que nous donnons, à moins que la personne elle-même, comme on a dans le cas de personnes qui se droguent, font les échanges de seringues. Là, oui. Là, il y a une petite inconscience, un peu de légèreté en se disant, bon, achetez notre seringue, échangeons-nous la même seringue. Là, il y a un risque évident.
Mais il y a certains qui peuvent placer cette seringue dans l'eau bouillante et puis l'utiliser.
Oui, c'est une pratique qui se fait, peut-être en dehors du milieu hospitalier, mais en milieu hospitalier, ce n'est plus de mise, ce n'est plus autorisé.
Donc, on utilise une seringue
une fois et une seule personne, oui. Usage unique, usage individuel.
Il y a certains objets piquants aussi en cas de malaria. Vous voulez faire une goutte épaisse, ben on pique. Hein. Donc c'est à usage unique aussi.
Exactement, des lancettes qu'on les appelle. C'est aussi usage unique et individuel.
Jean Dambos nous appelle de Colésie. Bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité. J'ai une préoccupation, hein. C'est-à-dire, puisque moi-même, je suis un coiffeur, je travaille au salon de coiffure.
Oui.
Alors, un jour, j'étais en train de coiffer un docteur, et j'avais posé une question à ce docteur, soit disant que, donc, comme nous qui utilisons que les tondeuses, est-ce que ça peut risquer à ce que, et donc ça peut permettre à ce que ça puisse transmettre une maladie à un autre. Alors le docteur me dira que d'abord le virus du sida c'est un anaérobie, il ne résiste pas à la présence de l'oxygène. Et comme vous, le tondeuse est chauffé chaque fois, donc il n'y a pas moyen à ce que une tondeuse puisse transmettre la maladie. Alors comme l'invité est là comme spécialiste, je voulais un peu me rassurer. Est-ce que réellement ce que le docteur m'avait dit est vrai ou bien il faut encore savoir quelque chose de votre part?
Oui, docteur Didier.
Oui, ce que nous allons d'abord préciser avec force, c'est que le risque de contamination du virus par la tondeuse était là, il est tout à fait présent. Si vous avez 4 personnes que vous allez coiffer, que les personnes passent à tour de rôle, et que parmi ces 4 personnes, l'une est infectée, il y a un risque de contaminer les personnes qui passent après la personne infectée. Mais maintenant, le cas du virus du VIH, on dit, nous demandons que chaque personne, l'idéal est que chaque personne puisse avoir sa tondeuse. Maintenant, nous allons dans l'extrême province, dans l'arrière-pays, où ces conditions sont difficiles à réaliser. Même si c'est souvent difficile à réaliser d'avoir chacun sa tondeuse, alors nous demandons que cette tondeuse soit bien, très bien alors désinfectée avec des watts bien imbibés d'alcool. Et puis deuxièmement, si vous pouvez associer à cela des pratiques, vous avez deux tondeuses et que la première, la tondeuse que vous venez d'utiliser, vous la laissez sécher après l'avoir désinfectée, vous utilisez notre tondeuse. Ça peut être aussi des pratiques qui éviteraient à notre population des risques de contamination. Donc vous comprenez que nous sommes dans une situation où nous tolérons pour des raisons de faibles ressources.
Ouais, il y a un docteur qui a dit qu'au contact de l'air, le virus ne résiste pas.
Oui, là, il faut préciser peut-être pour l'information de notre population. Certains détails n'ont pas les données, mais on dit ceci. Le virus du VIH ne résiste pas des conditions de sécheresse. Des sécheresses extrêmes où il est en dehors d'une cellule. Et le virus du VIH ne résiste pas des températures qui vont au-delà de 50 degrés. Donc, vous comprenez qu'une tondeuse fait 50 degrés, déjà vous-même, votre tête va chauffer. Et une tondeuse qui atteint les 50 degrés, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement. Alors, les tondeuses modernes chauffent assez difficilement. Donc, vous pouvez avoir le risque de contamination. Et le principe qui est connu sur le plan scientifique, c'est que le virus est fragile à l'alcool, il est fragile à des hautes températures et qu'il est fragile à des conditions de sécheresse. Mais donner cette information de manière crue comme ça, notre population peut commencer à se dire oui, comme on dit à l'ingala, si on a Kaoussiango, le virus ne supporte pas la sécheresse. Et non, là, il y a un risque, parce que la cellule est invisible à l'œil. Quand on dit sécheresse, cela ne veut pas dire qu'au cas où, toi, tu as vu avec les yeux. La cellule peut être présente sur la lame, mais il n'a pas réuni les conditions de sécheresse. Donc, cette désinfection est capitale. Et une bonne désinfection est bien frottée alors. Et laisser un peu sécher avant d'utiliser ça à une autre personne.
Le réveil avec Radio Okapi, c'est une session d'information en français, en Swahili, en Kiluba, en Kikongo et en Lingala. C'est aussi des synthèses de l'actualité africaine et internationale, la revue de la presse chinoise et du sport. De 5h à 9h, découvrez qui a fait quoi, à qui, quand, où, comment et pourquoi, avec la session d'information de la matinale de Radio Okapi. Lorsque le jour se lève à 5h, Radio Okapi met le Congo à la une des saisons. La matinale de Radio Okapi, c'est de lundi à vendredi de 5h à 9h, heure de Kinshasa.
Mario Hassan nous appelle de Kindu. Bonjour. Mario, bonjour. Oui, votre question.
Bonjour à Radio Okapi, bonjour aussi à l'invité. Maintenant, bonjour la Radio Okapi, bonjour à l'invité. J'ai des questions.
Oui.
Maintenant, ma question. Je voudrais maintenant savoir quel risque peut-on courir si l'on utilisait un objet tranchant utilisé par une personne infectée et que la personne n'a pas été lésée ou blessée. Maintenant, la seconde question. Je voudrais aussi connaître combien de minutes, combien d'heures, ou combien de mois, combien de jours, le virus du sida, par exemple, il demeure sur un objet transparent, peut-il continuer à exister?
Combien de jours?
Oui, parce que selon certaines informations qui nous ont été fournies, nous pensons que le virus demeure peut-être pour quelques heures et puis ça continue à exister.
Merci.
Je vais avoir vraiment beaucoup d'apaisement sur ces informations.
Merci Marius Bekindou, Modeste Moulungu, nous a fait des calémies, bonjour.
Ah, bonjour Jody, bonjour aussi à notre invité.
Oui, on vous écoute, quelle est votre question?
Aujourd'hui, moi, j'ai deux préoccupations. Juste la première, je voudrais demander à l'invité, est-ce que quand on achète sa lame de rasoir, on l'a utilisée aujourd'hui, est-ce qu'après des jours, on peut encore revenir chez cette même lame de rasoir pour la réutiliser de nouveau? La deuxième préoccupation, vous l'avez souligné là, sinon chacun pourrait avoir sa tondeuse propre. Mais quand vous entrez dans des salons, souvent on utilise la même tondeuse et une joueuse. Alors, je voudrais juste savoir, il n'y a pas une loi qui est votée juste au niveau de l'Assemblée pour protéger la population, parce que sinon, l'État serait en train de favoriser la propagation des maladies.
Merci à Modeste de Calémie, docteur Didier.
Oui, la première question... Il m'a demandé, notre ami Marius.
Marius, si une personne atteinte du sida utilise un objet tranchant sans être blessé, et une autre personne vient utiliser le même objet, est-ce qu'il y a des dangers?
Oui, lorsque nous disons que le virus a besoin d'une porte d'entrée au niveau de la peau, si c'est au niveau de la muqueuse, on n'en a même pas besoin. Par exemple, la muqueuse des yeux, la muqueuse buccale, il n'y a même pas besoin de porte d'entrée, et elle est facile à traverser. Au niveau de la peau, quand c'est ce qu'on appelle lésion, ça doit être différencié de ce que nous appelons une grosse blessure. Hein. Ce n'est pas une plaie visible. Et lésion ne veut pas dire nécessairement que vous avez vu du sang sortir. Les lésions peuvent être microscopiques, c'est-à-dire que la lame est passée, elle a fait une petite écorchure au niveau de la peau, et ça a créé une porte d'entrée sans que cela ne soit visible à l'œil nu. Et cela suffit au virus, c'est largement grand pour permettre au virus de passer. Donc, si vous avez utilisé, une personne a utilisé une lame avant vous et que par mégarde vous venez utiliser la même lame et que vous savez que cette personne est séropositive, confirmée, ce que je vais vous demander, c'est si la personne est séropositive, c'est d'aller dans un centre de santé le plus proche où on prend en charge le VIH-SIDA. On va vous donner ce qu'on appelle une prophylaxie des médicaments pour vous éviter la contamination parce qu'il y a eu un risque de contamination. Alors,
deuxième question, il dit combien de jours le virus peut vivre sur un objet tranchant?
Là, nous revenons toujours à la même question des conditions de sécheresse. Alors, les gens veulent se cacher derrière, disant, bon, la lame en question, là, ce sont souvent les gens qui sont dans les salons de coiffure. On veut se cacher derrière le fait que non, voilà, écoute, cette lame, je l'ai utilisée il y a deux ou trois jours, je ne sais pas encore la réutiliser parce que le virus est fragile à l'air ambiant. Non, ça, à ne jamais faire. Toujours usage individuel. Mais le virus, quand on dit condition de sécheresse, faites attention, ça peut être dans une cellule du sang et sous cette lame, et vous avez l'impression que ça s'est arrêté, ça peut encore sécher, le virus est là.
Voilà, et Modeste parlait d'une loi, est-ce qu'il existe une loi qui a été votée ou une proposition de loi pour protéger la population contre tous ces risques?
Oui, il y a une loi, la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH, qui donne des droits et des devoirs, mais une loi spécifique pour dire n'utilisez plus les tondeuses dans les salons de coiffure, cette loi n'existe
pas.
Par contre, ce que nous sommes en train de faire, la loi, si on peut l'appeler ainsi, c'est chacun sa tondeuse. C'est ça ce qui serait la loi.
C'est ça l'idéal.
C'est ça l'idéal. Mais or, nous sommes dans des conditions de pauvreté.
Voilà, Dieudonné Kimanga, nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre question, Dieudonné.
Oui, bonjour aussi au docteur. Oui, ma question est la suivante. Dans les salons de coiffure actuellement, au lieu d'utiliser une boîte, un pipet d'alcool, ils mettent l'alcool dans un petit flacon qui émet des jets d'alcool sur la machine, donc sur la tondeuse. Est-ce que c'est bon aussi, ça désinfecte correctement? Et aussi, la deuxième question, il y en a d'autres qui utilisent, à la place de l'alcool, ils utilisent le daquin. Est-ce que c'est aussi approprié pour désinfecter la tondeuse? c'est ça mes deux questions.
Docteur Billet.
Oui, dans plusieurs salons, souvent à Kinshasa, on voit pour des raisons de poids esthétiques, hein, on amène met de l'alcool dans des petits flacons sous forme de spray. C'est bien, mais l'idée, je conseillerais d'associer aussi le fait de frotter les lames. Hein, parce que c'est une double méthode où vous augmentez un peu les conditions de sécurité. Et dans nos milieux, nous remarquons que à l'alcool, des fois, on le remplace avec d'autres formes de détergents. Tout ce qui est détergent, généralement, est assez efficace contre le VIH.
Le Dakar?
Le Dakar, oui, entre autres. Mais bon, pour des raisons esthétiques, vous voyez l'odeur du Dakar et ce n'est pas toujours intéressant. L'alcool, ça serait mieux.
Voilà, il y a un autre auditeur qui nous a écrit, c'est Zizou des Goma, le virus du sida est-il aérobique ou anaérobique? Quelle est la durée de vie du virus en plein air? On dit que le virus ne résiste pas aux dissolvants.
Oui, le virus, c'est un parasite obligatoire. Donc, pour qu'il vive, le virus du VIH, je veux dire, pour qu'il vive, il doit être dans une cellule. Il a besoin d'une cellule pour vivre, comme on a tant de microbes qui ont besoin de notre organisme. Mais la plupart ne nous rendent pas malades. Certains, ceux qui sont dans un type digestif, créent des problèmes digestifs. Mais le VIH, ici, c'est un parasite obligatoire. Alors, si on le met dans des conditions, comme je l'ai dit, des CCRS. Comprenez, là, j'ai dit CCRS, ce n'est pas tout à fait l'air ambiant. En plus, c'est le tout en dehors de la cellule, en des conditions de CCRS, et il va se désagréger. Combien de temps, on n'a pas un intervalle assez précis. Alors, avancer une durée aussi pour des réseaux d'éducation de la population, je pense que ce n'est pas une bonne chose dans le cadre de la protection. Mm. Et les dissolvants, oui, les dissolvants sont assez efficaces pour détruire le virus.
C'est efficace.
Oui, les dissolvants sont efficaces pour détruire le VIH.
Bien, merci à Dr Didier Caméré pour avoir répondu à notre invitation afin de parler des dangers d'utiliser en commun les objets tranchants et piquants. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, j'ai dit ça.